إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture et l'explication de cet épître de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, intitulé « Leçons importantes pour toute la communauté ». On a vu dans le cours d'hier la première leçon au sujet de l'apprentissage de Surat al-Fatiha ainsi que des courtes sourates du Coran. On a vu également une explication concise des sens des versets de Surat al-Fatiha. On va voir aujourd'hui la deuxième leçon dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé les piliers de l'islam. Il dit, rahimahullah, on exposera ici les piliers de l'islam. L'islam, c'est-à-dire la religion avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette religion, elle repose sur cinq piliers, c'est-à-dire cinq bases essentielles sur lesquelles repose la religion. Et ces piliers, ils sont au nombre de cinq, comme il est rapporté dans le hadith authentique, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'islam est fondé sur cinq, c'est-à-dire il repose sur cinq choses, cinq piliers. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison. C'est donc sur ces cinq piliers mentionnés dans ce hadith que repose la religion de tout serviteur. Et c'est ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé ici dans cette deuxième leçon. Et comme vous allez le voir, il a surtout développé et détaillé ce qui concerne le premier pilier, qui est le plus immense et le plus important. Il dit, rahimahullah, le premier et le plus important est l'attestation que « La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah » Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Avec l'explication de son sens et l'exposé des conditions de « La ilaha illallah ». Donc les deux attestations, elles sont la base de la religion du serviteur. C'est sur celle-ci que tu vas bâtir le reste de ta religion. C'est par la prononciation de ces paroles que tu entres en islam. Donc si ces deux attestations sont présentes, et qu'elles sont correctes, que la personne ne commet pas des choses s'opposant à celle-ci, elle aura alors acquis la base et le pilier le plus important de la religion. Mais si ces deux attestations sont absentes, ou alors que la personne commet des choses annulant ces attestations, alors la religion également sera absente. Ceci nous montre donc l'importance de concrétiser ces deux attestations, d'apprendre leur sens, afin que ces paroles, ce ne soient pas de simples mots que tu prononces avec ta langue, sans même en comprendre le sens et sans savoir ce que ces paroles impliquent. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, avec l'explication de son sens et l'exposé des conditions de la ilaha illallah. Il insiste bien sur le fait que tu dois comprendre que ces paroles ne sont pas des simples mots qui n'ont pas de sens et qui n'impliquent pas de toi certaines choses. Mais ces paroles, elles ont un sens et elles ont des conditions. Et il est impératif pour le musulman de connaître son sens et de concrétiser ses conditions. Il dit donc, rahimahullah, son sens est le suivant, le sens de la ilaha illallah. La ilaha, que l'on a traduit par « nul n'est en droit d'être adoré », est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc lorsque tu dis « ashhadu an la ilaha », j'atteste que nul n'est en droit d'être adoré. C'est-à-dire que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu renies l'adoration des anges, tu renies l'adoration des prophètes, tu renies l'adoration des saints ou des walis, tu renies l'adoration du soleil, de la lune, des pierres, des arbres et ainsi de suite parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu renies tout cela, car ils ne sont pas en droit d'être adorés. Puis ensuite tu dis « Illallah », sauf Allah. Il dit, rahimahullah, « Illallah » est l'affirmation, que l'adoration est un droit exclusif d'Allah, seul, sans associé. C'est-à-dire qu'en disant cette parole, tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que toutes les adorations ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ce sens que cette parole, elle a deux piliers. Le premier pilier est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le deuxième pilier est l'affirmation que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. La négation et l'affirmation sont donc les deux piliers de la ilaha illallah. Il est impératif pour le musulman de comprendre cela. Et on retrouve le sens de ces piliers dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, qu'est-ce qu'il leur dit? Je me désavoue de ce que vous adorez. On retrouve quoi ici? On retrouve le sens de la négation. La négation que l'on retrouve dans la ilah. Nul n'est en droit d'être adoré. Je me désavoue de ce que vous adorez. Ensuite il dit, à l'exception de celui qui m'a créé. Sauf celui qui m'a créé, c'est-à-dire Allah. Il affirme donc qu'Allah est le seul en droit d'être adoré. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Et comme vous le voyez, cette parole, c'est la base même de la religion de l'islam. C'est l'ordre le plus important de la religion. Et c'est par cette parole que l'ensemble des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam ont été envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un prophète pour leur dire « Adorez Allah », c'est-à-dire « Adorez Allah » exclusivement, et « Écartez-vous du tarout », c'est-à-dire « Écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala ». C'est donc l'appel de l'ensemble des prophètes, alayhim salatu wassalam. Tous sont venus appeler leur peuple à cette parole. Ceci te montre donc l'importance de cette parole immense qui est la parole du tawhid. Après avoir compris cela, il est important pour toi de savoir comment concrétiser cette parole. Et cette parole, elle va se concrétiser par ses conditions. C'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ensuite, quant aux conditions de la ilaha illallah, les voici. Il va nous citer 8 conditions de la ilaha illallah. Et ces conditions, comme l'ont mentionné certains parmi les salaf rahimahumullah ta'ala, elles sont à l'image des dents d'une clé. Car la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. C'est cette parole qui va te permettre, bi'idnillahi ta'ala, d'entrer au paradis. Elle a donc été comparée à la clé du paradis. Mais comme vous le savez, toute clé, pour ouvrir la porte, il faut qu'elle ait quoi? Il faut qu'elle ait des dents. Et ces dents, elles sont l'image des conditions de la ilaha illallah. Donc pour que ta clé ouvre la porte, il est impératif qu'elle ait des bonnes dents. Et ces bonnes dents, ce sont ces 8 conditions que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées. Il a donc dit, rahimahullah, la première est le savoir, qui s'oppose à l'ignorance. C'est-à-dire que tu saches le sens de cette parole et ce qu'elle implique en termes de négation et d'affirmation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Il dit dans son noble livre « Fa'lam annahu la ilaha illallah ». Sache donc qu'en vérité, nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de savoir cela. Et il est également venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, celui qui meurt alors qu'il sait, méditez bien sur cette parole, alors qu'il sait que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, il entrera au paradis. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils prononcent cette parole avec leur langue, mais ils ne connaissent pas son sens. Et c'est pour cela que bien qu'ils prononcent cette parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans des choses qui s'opposent à cette parole, comme par exemple le polythéisme. Et ce à cause de leur ignorance du sens réel de la parole du Tawhid. Cette parole qui est la base fondamentale de la religion de l'islam. Et ainsi, ils ont été plus ignorants que les mécréants du peuple de Quraysh, vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. En effet, eux, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de dire la ilaha illallah, ils refusaient de dire cette parole. Pourquoi ils refusaient? Car ils comprenaient son sens. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 5 de la surah Sad « أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ » A-t-il fait de nos divinités Un seul Dieu? Ceci est vraiment une chose surprenante. Il refusait donc de prononcer cette parole car il comprenait la réalité de son sens. Réalité qui est aujourd'hui ignorée par nombre de personnes affiliées à l'islam. Wallahu al-musta'an. Donc ceci est la première condition que tu dois concrétiser de l'attestation que la ilaha illallah. Que tu saches quel est son sens, ce qu'elle signifie en termes de négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'affirmation que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé. La deuxième condition est la certitude. Il nous dit, rahimahullah, qui s'oppose au doute. C'est-à-dire que tu prononces cette parole en ayant la certitude de ce qu'elle implique, c'est-à-dire que tu es sûr et certain que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas de doute ni d'hésitation dans ton cœur. Car celui qui est dans le doute, ou qui est hésitant, qui ne sait pas réellement si l'adoration est un droit exclusif d'Allah, ou alors si autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en droit ou non d'être adoré. Alors celui-ci, cette parole, elle ne lui est d'aucun profit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 15 de Surat al-Hujurat, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, puis ensuite ne doutent pas. Ils n'ont aucun doute à ce sujet, ils n'ont aucun doute au sujet de leur foi, ni incertitude, ni hésitation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, j'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et que je suis le messager d'Allah. Aucun serviteur ne rencontre Allah avec ces deux attestations sans avoir de doute à leur sujet, sans entrer par la suite au paradis. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis la condition de ne pas avoir de doute au sujet de cette parole. Donc il est bien important de comprendre que tu ne dois pas avoir de doute au sujet de cette parole. Mais tu dois avoir la certitude que l'adoration est un droit exclusif d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors leur adoration est une adoration qui est vaine et qui n'est pas justifiée. Le shir, il nous dit ensuite, rahimahullah, la troisième condition est la sincérité, qui s'oppose au polythéisme, au shirk. En effet, cette parole elle ne peut être profitable pour celui qui la prononce, si ce n'est en voie un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui dit nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, puis qui va ensuite adorer les tombes, adorer les morts, adorer les djinns, invoquer le prophète, invoquer les anges, ou autre parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'est totalement opposé à cette parole. Et cette parole, elle ne lui sera point profitable. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne la plus en droit de bénéficier de mon intercession est celui qui dit la ilaha illallah en étant sincère dans son cœur. C'est-à-dire qu'il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et d'après Idban, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a interdit au feu, c'est-à-dire que le feu ne pourra pas toucher la personne qu'il va nous décrire par la suite. Certes Allah a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah en recherchant par cela le visage d'Allah, c'est-à-dire en étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est également rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il va donc de soi que celui qui prononce cette attestation, il se doit de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est le sens même de cette parole. La quatrième condition est la véracité, qui s'oppose au mensonge. C'est-à-dire que lorsque tu dis la ilaha illallah, tu te dois d'être véridique. C'est-à-dire que ta langue, elle prononce ce qui se trouve dans ton cœur. Elle est en accord avec ton fort intérieur. Car celui qui prononce avec sa langue ce qui ne se trouve pas dans son cœur, qui est-il? Celui-ci est l'hypocrite. Ceux qui disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc l'hypocrite, il a failli à cette condition. Il n'est pas véridique lorsqu'il dit la ilaha illallah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, dans le premier verset de Surat al-Munafiqun, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Lorsque les hypocrites viennent à toi et te disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait très bien que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas véridiques. Ils prononcent cette parole seulement pour se faire passer pour des musulmans. Mais au fond de leur cœur, ils cachent la mécréance et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les placera au plus profond du feu. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Et les hypocrites seront certes au plus profond du feu. Il est donc impératif pour celui qui prononce cette parole qu'il soit véridique, que sa langue soit en accord avec son cœur. D'après Mu'az ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul n'atteste que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et que Muhammad est son serviteur et messager, en étant véridique dans son cœur, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui interdise le feu. On voit donc à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis cette condition qui est la véracité qui s'oppose au mensonge. La cinquième condition est l'amour qui s'oppose à la haine. C'est-à-dire que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, que tu aimes son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que tu aimes les croyants, que tu aimes cette parole, la parole du tawhid, la ilaha illallah, et que tu aimes tous ceux qui prononcent cette parole, même s'ils ne font pas partie de tes proches, même s'ils n'ont pas les mêmes origines que toi, même s'ils ne parlent pas la même langue que toi, et même si tu ne les connais pas. Tu les aimes pourquoi? Car ils prononcent cette parole immense, la parole du tawhid, la ilaha illallah. Et en prononçant cette parole, ils font partie de tes frères. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. C'est donc cette parole qui unit les croyants par la fraternité en religion. Et on retrouve à travers cette condition un principe immense parmi les principes de notre religion qui est l'alliance et le désaveu. Le fait de s'allier aux croyants et de se désavouer des mécréants. Donc de la même manière que tu aimes cette parole et que tu aimes ceux qui la prononcent, tu te dois également de détester ceux qui s'opposent à cette parole ou qui font des choses qui s'opposent à cette parole comme le polythéisme et la mécréance. Donc cette parole, la ilaha illallah, tu dois la prononcer avec amour. Comme on a dit, amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, amour pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, et également amour pour cette parole et ce qu'elle implique comme culte exclusif qui doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu concrétises cela, alors tu pourras goûter à la douceur de la foi, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par les imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, il y a trois choses. Celui qui les réunit en lui, il goûtera à la douceur de la foi. La première chose, c'est quoi? Qu'Allah et son messager soient plus aimés pour lui que toute autre chose. C'est-à-dire que il aime Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager plus que toute autre personne ou toute autre chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'aime que pour Allah. C'est-à-dire les choses que tu aimes ou les personnes que tu aimes, tu les aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce que tu vas regarder chez une personne, c'est ce qui apparaît d'elle en termes de piété, en termes de culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres, en délaissant ses interdits. Plus apparaît d'une personne de la piété, plus tu vas l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, plus apparaîtra d'une personne la perversion ou les péchés, ou pire encore, la mécréance et le polythéisme, plus tu vas détester cette personne. Donc lorsque tu aimes une personne, tu ne l'aimes pas en fonction de ses origines, parce qu'elle vient du même pays que toi, ou du même quartier que toi, ou de la même ville que toi. Tu ne l'aimes pas non plus parce que elle a des centres d'intérêt en commun avec toi, de certains loisirs en commun, ou autre chose comme cela. Mais tu l'aimes seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la deuxième condition pour trouver la douceur de la foi. Et la troisième chose, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, c'est que tu détestes retourner dans la mécréance de la même manière que tu détesterais être jeté dans le feu. Donc on retrouve ce principe de désaveu. Du désaveu de la mécréance et du désaveu des adeptes de la mécréance. Al-Muhim, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'amour fait partie des conditions de la ilaha illallah. Et qu'il est obligatoire pour nous d'aimer cette parole, d'aimer ceux qui prononcent cette parole et d'aimer ce qu'implique cette parole comme culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au hadith sur les trois choses qui permettent de trouver la douceur de la foi, je l'ai expliqué dans une conférence que vous pourrez retrouver sur le site inshallah ta'ala. La sixième condition est la soumission qui s'oppose à l'abandon. C'est-à-dire que tu te soumettes à ce qu'implique la parole du tawhid, la ilaha illallah. On a dit que son sens est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que l'adoration est un droit exclusif d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois te soumettre à cela. Comment? En vouant un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu te soumets à cette parole. Et tu accomplis ce qui te permet de concrétiser cette parole en termes de soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, en obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits. La septième condition, c'est l'acceptation qui s'oppose au rejet. C'est-à-dire que tu acceptes tout ce qu'implique cette parole. Tu acceptes de vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu acceptes que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est en droit d'être adoré. Tu acceptes cela avec ta langue, mais tu l'acceptes également avec ton cœur. Et tu ne rejettes pas cela. Tu ne fais pas preuve d'orgueil vis-à-vis de cette parole et vis-à-vis de ce qu'elle implique. Non pas comme le faisaient les mécréants du peuple de Quraysh. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Ils s'enflent d'orgueil et ils disent, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Ils ont donc refusé, rejeté cette parole et ils ne l'ont pas acceptée. Enfin, la huitième condition, qui est une condition qui est mentionnée par certains savants. Car vous trouverez dans beaucoup d'ouvrages que les conditions de la ilaha illallah sont seulement au nombre de sept. Toutefois, certains savants ont rajouté cette condition, la huitième, afin d'appuyer sur ce sens essentiel de la parole du tawhid, la ilaha illallah. Ils ont dit la huitième condition est le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il est indispensable de le renier. Celui qui adore Allah, subhanahu wa ta'ala, en lui vouant un culte exclusif. C'est-à-dire qu'il adore Allah, il n'adore pas autre que lui. Toutefois, il pense qu'autre qu'Allah est aussi en droit d'être adoré. Il te dit, ceux-là, ils adorent par exemple la croix, ils sont en droit d'adorer la croix. Ou alors, ceux-là adorent les statues, adore les vaches, et ainsi de suite, ils ont le droit de faire cela. Celui-ci, il n'a pas concrétisé cette condition. Car il est obligatoire de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans son livre, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque mécroit au tâghout, la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et croit en Allah, l'affirmation, que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré, a certes saisi l'anse la plus solide. L'anse la plus solide, il est venu dans le tafsir de ce verset que c'est la parole du tawhid, la ilaha illallah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la hadith authentique rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, quiconque dit la ilaha illallah et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ses biens et son sang sont sacrés et son jugement revient à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les huit conditions de la ilaha illallah, qui, comme vous l'avez vu, elles ont été tirées des preuves du Coran et de la Sunna. Et le Shir rahimahullah ta'ala nous dit, elles ont été réunies dans les vers suivants. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa al-qabuli laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-ashya'i qad uliha. Savoir, certitude, sincérité et véracité, avec amour, soumission et acceptation de cela, s'ajoute la huitième qui est le fait de renier toute chose qui est adorée en dehors d'Allah. Ces vers de poésie, ils ont été réunis afin de faciliter l'apprentissage et la mémorisation de ces conditions. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, passe à la deuxième partie de l'attestation de foi, qui est l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, rahimahullah, ceci est accompagné de l'exposé de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette attestation, elle est indispensable. Pour être musulman, il est obligatoire de reconnaître que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un prophète et un messager envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, à l'ensemble de l'humanité. Tu dois donc reconnaître que c'est un messager, qu'il a été envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, que sa parole est la parole de vérité. Mais également, tu dois reconnaître que c'est un serviteur d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans son noble livre. Et lorsqu'on dit que c'est un serviteur, cela signifie qu'il n'a pas le droit à l'adoration. Car comme on l'a vu, l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ce qu'implique cette parole. Il dit l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah qui implique ce qui suit. Croire en ce dont il a informé. C'est-à-dire que tu ne dois avoir aucun doute sur la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où un hadith est authentique, qu'il est confirmé de manière sûre comme venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne t'est pas permis de remettre en question le contenu de ce hadith. Que cela concerne des choses passées, comme l'histoire des prophètes qui ont précédé notre prophète, ou alors des choses futures, comme les signes de la fin des temps, ou alors le châtiment de la tombe, les choses qui se produiront dans l'au-delà, et ainsi de suite. À partir du moment où cela a été confirmé, dans un hadith authentique, il est obligatoire pour toi d'avoir la certitude en la véracité de cela. Et tu dois prendre garde à nombre de personnes parmi les prêcheurs de l'égarement, les prêcheurs aux portes de l'enfer qui aujourd'hui tentent de remettre en question certains propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit à son sujet? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est donc obligatoire de croire en tout ce dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. La deuxième chose, le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, obéir à ses ordres. C'est-à-dire, obéir aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, Man yuti'i ar-rasul, faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ. Et tout ce avec quoi vient le messager, alors acceptez-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, tout ce que je vous ordonne, alors mettez-le en pratique autant que possible. Il est donc obligatoire pour le musulman de se soumettre aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam une cause de guider. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 54 de sourate An-Nur, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوهُ. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam une cause de réussite et de succès. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 52 de sourate An-Nur, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Quiconque obéit à Allah et au messager, craint Allah et fait preuve de piété à son égard, ceux-là récolteront le succès. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 69 de surat An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam une cause pour obtenir l'amour d'Allah et pour obtenir le pardon de tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, quel est le signe de l'amour véritable d'Allah? Alors suivez-moi. Suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le signe de l'amour véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est en suivant son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il suit son messager, alors Allah l'aimera et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. La troisième chose qui est impliquée par l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimandé. De la même manière que l'on obéit à ses ordres, on délaisse également ses interdits. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, on se doit de s'en éloigner. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce qu'il vous interdit, alors délaissez-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, et ce que je vous ai interdit, alors écartez-vous-en. Il est donc obligatoire pour le croyant qui souhaite concrétiser cette attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à ses ordres, mais également de délaisser ses interdits. Et ne pas faire comme certaines personnes qui, lorsque tu leur apportes les preuves de la sunna authentique, que certaines choses sont interdites, il te dit, mais cela n'est pas mentionné dans le Coran. Je n'ai pas vu ça dans le Coran. Donne-moi un verset du Coran qui prouve cela. Certes, il y a certaines choses qui ne sont pas venues explicitement en leurs termes dans le Coran, mais qui sont venues dans la sunna authentique. Et donc ces personnes, elles veulent remettre en question la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une chose très grave, car ils remettent en question une partie du premier pilier de l'islam qui est l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu attestes qu'il est le messager d'Allah, cela signifie que tu dois lui obéir dans ses ordres et t'écarter de ses interdits. Donc certes, certaines choses ne sont pas venues explicitement en leurs termes dans le Coran. Mais qu'est-ce qu'il est venu dans le Coran? Il est venu la menace d'un châtiment douloureux pour quiconque s'oppose aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, que ne les atteigne une fitna. Il est venu dans le tafsir que la fitna, c'est le shirk, c'est-à-dire qu'ils finissent par tomber dans le polythéisme, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et le simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait dit « وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le, cela te prouve que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, qui est confirmé dans la sunna authentique, il est obligatoire pour toi de le délaisser. La quatrième chose qui est impliquée par cette attestation, comme le dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, c'est de n'adorer Allah que de la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont légiféré. Donc ceci est une des conditions de l'acceptation des œuvres. En effet, pour que tes œuvres soient acceptées, elles doivent impérativement remplir deux conditions. La première condition est la sincérité, c'est-à-dire que tu sois sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tu lui voues exclusivement cette œuvre. Et la deuxième condition, c'est que ton œuvre, elle soit conforme à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle ne contienne aucune innovation. Et toute œuvre qui ne remplit pas ces deux conditions, alors c'est une œuvre rejetée. Si une œuvre est conforme à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'elle n'est pas sincère pour Allah, que la personne la commet par exemple par ostentation, alors cette œuvre est rejetée. Et si la personne accomplit une œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en l'avouant exclusivement à lui, en cherchant à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'elle accomplit une œuvre qui n'a pas été légiférée, qu'elle ne se conforme pas à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors son œuvre est rejetée. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Aisha radiallahu ta'ala anha, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, son œuvre sera rejetée. Donc toute innovation en religion, elle est rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur la mise en garde contre les innovations. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Il est donc obligatoire pour le musulman de se conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa sunna et de délaisser les choses nouvelles en religion. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et n'innovez pas, cela vous suffit. Il te suffit de suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, suivre la voie de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhu, et tu n'as pas besoin d'innover, cela te suffit. Il te suffit de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour être sur le droit chemin qui te mène à Allah subhanahu wa ta'ala et qui te mène au paradis éternel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. Ceci sont donc les quatre choses qu'implique ton attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que tu crois en tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, que tu obéisses à ses ordres, que tu t'éloignes, que tu t'écartes, que tu délaisses tout ce qu'il a interdit et que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala que de la façon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. On voit donc à travers cela que celui qui innove en religion, parmi les gens de l'innovation, alors il a un manquement sévère dans la concrétisation de son attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, on expliquera ensuite à l'élève le reste des cinq piliers qui sont la prière, l'aumône, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée pour celui qui en a les capacités. Et ces choses-là, en réalité, elles sont développées dans les livres de jurisprudence. Par la grâce d'Allah, dans des cours précédents, on a déjà développé un certain nombre de questions liées à la prière, ainsi qu'aux règles de la zakat, aux règles du jeûne de Ramadan. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, il va à nouveau développer dans ce livre ce qui est lié à la prière, en nous mentionnant les piliers de la prière, ses conditions, ses obligations, ses sunan, ce qui annule la prière, et également ce qui est lié aux ablutions, comme on le verra dans des prochaines leçons, inshallah ta'ala. On va donc se contenter de cela pour aujourd'hui, et on verra dans le cours de demain, bi'idhnillah ta'ala, la troisième leçon qui concerne les piliers de la foi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit, et écoutez, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.